Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien avec cette chaleur qui est appréciable, il faut l'avouer, hein, après le temps que nous avons eu les semaines précédentes. On dit joyeux Noël, on dit joyeuse Pâques, mais je n'ai pas encore entendu quelqu'un me dire joyeuse Pentecôte. Alors je tente. Joyeuse Pentecôte. Je vous propose de visionner une vidéo avant de continuer.
I asked ChatGPT. I typed in, please compose a 30-second prayer to God in the spirit and theology of Don Carson in praise to the glory of God's grace. Click. 3 seconds later, this is what I was given. Gracious Father, we bow before you, the sovereign Lord of history and redemption. From eternity past, you purposed to lavish grace upon undeserving sinners through the blood of your beloved Son. We praise you for the glory of your mercy, unearned, unmeasured, made manifest in Christ crucified and risen. May our lives, redeemed and sanctified by your Spirit, be vessels of praise to the riches of your grace. To you be glory forever and ever. Amen. That's a machine. As I'm asking, is that praise? No! This people, these machines, honor me with their lips and their bites. And their heart is far from me. So let's clarify the purpose of the universe, quick. I'm done. I got 19 seconds. Let's clarify. Why were you made? Words? Computers do words better than you. Seriously, better than me. Computers do words. They don't feel anything. Therefore, the universe is created to have people who feel. This is amazing. Think of it. The universe exists to have people in God's image who feel the worth of grace, who feel the glory of grace, who feel the beauty of grace, who feel the wonder of grace. And then everything in their life takes on a totally non-AI meaning of action and praise to God.
La traduction était approximative, mais je pense assez proche quand même de ce que disait John Piper. Est-ce que la louange peut venir d'une IA? C'est ce que pose, enfin voilà, c'est ce que John Piper pose comme question. Est-ce que une IA peut louer Dieu? Eh bien non, parce qu'une IA ne ressent rien. Et je pourrais ajouter, parce qu'une IA ne peut pas être remplie du Saint-Esprit. Elle ne peut pas louer Dieu ou prier Dieu comme vous et moi. Alors c'est vrai, elle génère des mots. Mais l'Esprit n'est pas à l'œuvre en elle. Par contre, c'est différent pour les chrétiens. L'œuvre de l'Esprit est indispensable dans leur vie. Et j'espère que cette série de prédications sur le Saint-Esprit a au moins mis cela en évidence. Que nous avons besoin de l'œuvre de l'Esprit-Saint dans notre vie. J'espère que les textes bibliques que nous avons abordés tout au long de cette série ont mis en évidence que nous ne pouvons nous passer du Saint-Esprit. Ne serait-ce que pour comprendre ces textes et celui de ce matin. Ne serait-ce que pour obéir à ce que la parole de Dieu nous commande. Nous ne pouvons nous passer du Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas chrétiens ne cherchent pas à se laisser diriger par le Saint-Esprit, mais il en est tout autrement pour les chrétiens. Et il me semble que le texte de ce matin nous indique la marche à suivre, la manière dont les chrétiens doivent mener leur nouvelle vie. Et je vous propose que nous puissions lire ensemble ce texte dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5. Et je lirai à partir du verset 15. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 15. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et je m'arrêterai là pour la parole de Dieu. Je reviendrai sur le contexte de ce passage que nous avons lu, mais d'emblée, nous pouvons exprimer ce que Paul dit ici aux chrétiens d'Éphèse. Il leur dit « Conduisez-vous comme des sages, en tenant compte de la volonté de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit, ce qui vous conduira à vivre de telle ou telle manière. » Et nous verrons justement dans quel domaine. Alors d'abord, parlons justement de ce qu'on appelle la plénitude de l'Esprit, ou essayons de définir ce que ça signifie être rempli de l'Esprit. Alors nous devons d'abord regarder le contexte et je vous propose de suivre avec moi, ça va nous aider. Je remonte au début de la lettre, dès les premiers chapitres, les chapitres 1 à 3. Dans ces chapitres-là, Paul expose ce que Dieu a fait pour les croyants d'Éphèse. Paul parle des bénédictions qu'ils ont en Christ. Il leur dit qu'ils sont sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Que grâce à l'œuvre de Jésus, eh bien, juifs comme non-juifs sont désormais réconciliés avec Dieu et réconciliés les uns avec les autres. Ça, c'est le plan que Dieu avait avant la fondation du monde et qu'il a mis à exécution. Et à partir du chapitre 4 de cette lettre, Paul passe à des considérations pratiques. Après avoir vu tout ce que Dieu a fait pour eux, eh bien, comment vivre cette vie ? Puisque les Éphésiens ont bénéficié de la grâce de Dieu, puisqu'ils ont placé leur foi en Christ, comment doivent-ils vivre en tant que chrétiens maintenant ? Et j'aimerais lire quelques versets des chapitres 4 et 5 pour que vous puissiez suivre le cheminement de la pensée de Paul. Je commence au chapitre 4, verset 1. Voici ce que Paul leur écrit. « Je vous encourage à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Ensuite, au verset 17, « Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. » Versets 22 à 24, « On vous a enseigné à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Verset 30 de ce chapitre 4, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Notamment, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par un comportement qui correspondrait à notre ancienne manière de vivre. Je passe au chapitre 5, verset 8. Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Et je relis le verset 15. Faites donc attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Est-ce que vous avez suivi le cheminement de la pensée de Paul ? Ce qu'il essaye de dire, ce qu'il dit aux Éphésiens, il leur dit « Faites attention à votre manière de vous conduire. Ne vous comportez plus comme les non-croyants. Vous étiez ténèbres avant. Vous étiez comme eux avant. Mais maintenant, vous êtes lumière. Alors vivez comme des enfants de lumière. » Paul exhorte les Éphésiens à vivre d'une manière radicalement différente des non-croyants. Autrefois, vous étiez comme eux. Vous étiez ténèbres. Mais maintenant, puisque le Seigneur vous a sauvés par grâce, vivez selon la justice. Vivez selon l'amour. N'imitez pas ceux qui n'ont pas été éclairés par le Saint-Esprit, ceux en qui l'Esprit n'habite pas. Et Paul emploie ces mots pour décrire en particulier les non-croyants. Voici ce qu'il dit dans le chapitre 4, verset 18. Concernant les non-croyants, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Or, les Éphésiens, comme l'a rappelé Paul au premier chapitre, eux, ils ont été marqués par le sceau du Saint-Esprit. Ils ont été éclairés. Ils comprennent les choses de Dieu. Ils comprennent le plan de Dieu. Ils comprennent le salut dont ils sont bénéficiaires. Ils ont été marqués du sceau de l'Esprit et donc ça veut dire qu'ils appartiennent à Dieu. Ils sont à Dieu, ils sont la propriété de Dieu. Ça, c'est ce que nous avons vu il y a quelques semaines. Et donc, puisqu'ils sont à Dieu, leur manière de vivre est et doit être nécessairement différente. Et c'est donc dans le prolongement de toutes ces exhortations que je viens d'énumérer que nous avons le verset 18. Après avoir dit de ne pas se comporter comme des insensés, mais de chercher la volonté du Seigneur, Paul leur dit, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Comme il l'a fait précédemment, Paul indique ce qu'il ne faut pas faire d'abord, et ensuite son opposé, ce qu'il faut faire. Et puisque Paul vient de parler de folie et de sagesse, eh bien, il continue sur ce même registre. La folie, c'est de boire du vin jusqu'à l'ivresse. Et il semble que c'était chose courante à cette époque, peut-être en lien avec certains cultes païens. La folie, c'est de boire du vin jusqu'à l'ivresse. Mais la sagesse, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. La folie, c'est de boire jusqu'à en perdre le contrôle. Mais la sagesse, c'est d'être rempli de l'Esprit qui ne nous fait pas perdre le contrôle. Bien au contraire, comme d'autres l'ont relevé avant moi, le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans le premier cas, cela conduit à une vie désordonnée, la débauche. Dans le second cas, cela conduit à une vie ordonnée, maîtrisée. Autrement dit, l'expression « être rempli de l'Esprit » n'est pas très différente des autres expressions que nous avons déjà entendues. Être conduit par l'Esprit, marcher par l'Esprit. Ces expressions sont équivalentes pour nous parler du fait de vivre en dépendant du Saint-Esprit, en le laissant nous diriger là où il veut. Et comment savons-nous la direction à prendre? Comment savons-nous où est-ce que l'Esprit veut nous conduire? Eh bien, juste avant, Paul disait « Comprenez quelle est la volonté du Seigneur ». Et où va-t-on chercher la volonté du Seigneur? Je vous posais la question. Où cherche-t-on la volonté du Seigneur? Dans la Bible, dans sa parole. C'est là que nous découvrons ce que Dieu veut. Dieu ne nous demande pas de deviner. Dieu nous dit déjà ce qu'il veut. Dieu nous dit déjà ce qui lui plaît. Dieu nous dit déjà ce qu'il attend de nous. Et donc cela a une implication très pratique. Ça veut dire que cela nécessite de lire la Bible. Si je veux savoir ce que Dieu veut, je n'ai pas d'autre option, d'autre possibilité que de me plonger dans la parole et de lire. Cela demande aussi de chercher à comprendre la volonté de Dieu. D'accord, Dieu me dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Comment est-ce que j'applique cela? Et bien sûr, toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Cela implique de l'étudier, cette parole, en profondeur. De chercher toujours de mieux en mieux à la comprendre. Pas juste à dire « je connais déjà », mais à essayer de comprendre et comment je vis cela dans ma vie. Et encore mieux, de l'étudier avec d'autres. C'est pour cela que nous faisons des études bibliques en groupe. C'est d'autant mieux lorsqu'on peut bénéficier de l'apport des uns et des autres. C'est d'autant mieux quand on est éclairé par ce que l'un ou l'autre nous dit. Dans ma vie, je n'ai jamais autant progressé dans ma compréhension de la parole qu'en suivant des cours bibliques, durant ma formation à l'Institut biblique de Nogent. Et ceux d'entre vous qui ont suivi des cours bibliques peuvent aussi en témoigner. On ne progresse jamais autant que lorsqu'on suit des cours, qu'on est formé et qu'on nous explique comment comprendre la parole. Là, on fait un bond en avant de plusieurs années. Je dis souvent que ma formation de 3 ans à l'institut équivaut à 10 ans dans une vie d'église. Mais c'est vrai. On emmagasine tellement, mais on progresse tellement en compréhension. Et c'est tellement bénéfique. Et plus je réfléchis à ce que je lis dans la parole, plus je réfléchis à la façon d'appliquer ce que je suis en train de lire, plus je laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en moi. Et je commence à obéir à Dieu. Être rempli de l'Esprit, c'est toujours mieux savoir ce que Dieu veut. Toujours mieux comprendre ce que Dieu veut pour moi et pour nous. Et ce que Dieu veut est exprimé dans sa parole. Et donc, il n'y a pas de raccourci pour nous qui sommes en capacité de lire la Bible. Pour nous qui l'avons à portée de main, contrairement à d'autres chrétiens dans ce monde. Nous avons toute la Bible dans notre langue, à notre disposition. Nous savons lire, puisque nous l'avons appris à l'école. Nous n'avons aucune excuse par rapport à ça. Il n'y a pas de raccourci pour devenir plus sage. Il n'y a pas de raccourci pour savoir comment se comporter dans telle ou telle situation. Cela passe par une lecture assidue de la Bible. Cela passe par une méditation régulière de ce que nous lisons. Cela passe par une étude approfondie des Écritures. Il n'y a pas de raccourci. Et je pense que si vous examinez un petit peu chacun votre propre vie, vous constaterez qu'en fonction de votre connaissance de la parole, cela a une répercussion sur votre manière de vivre et sur votre manière de vous comporter avec sagesse ou non. Il n'y a pas de raccourci. On doit se plonger dans la parole. On doit l'étudier. On doit pouvoir s'exhorter avec la parole. Ce qui n'est pas l'affaire de quelques mois. Je ne suis pas en train de dire que voilà, on fait un stage intensif de 3 mois et c'est bon. Ce n'est même pas l'affaire de quelques années. 3 ans de formation, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas grand-chose en même temps. Non, l'étude de la parole se poursuit tout au long de notre vie. Et c'est pour cela que tant que vous en avez la capacité jusqu'à votre dernier souffle, eh bien vous pourrez continuer à lire la parole. Notez cet impératif dans notre texte au verset 18. Soyez remplis de l'Esprit. Si c'est un impératif, cela en fait une obligation pour tout croyant. Il n'y a pas un croyant qui dit « Non, moi, je n'ai pas besoin d'être rempli de l'Esprit. » Pour tout croyant, cela est une obligation. Ne pas vouloir dépendre du Saint-Esprit pour sa vie chrétienne, c'est déjà désobéir. Et selon les Écritures, cela revient à se comporter comme un non-croyant. Cela revient à se comporter comme un insensé. C'est retourner dans les ténèbres. C'est revenir à notre ancienne manière de vivre. C'est vivre d'une manière indigne de l'appel que nous avons reçu en tant que chrétiens. Ce matin, je voudrais nous encourager tous à encore écouter cet ordre du Seigneur. Soyez remplis de l'Esprit. Plutôt que d'être remplis de vin jusqu'à l'ivresse, soyez remplis de l'Esprit pour vivre d'une manière qui plaise à Dieu. L'Esprit nous conduira toujours à honorer Dieu. L'Esprit nous conduira toujours à obéir à Dieu en vivant comme Dieu veut. Et nous allons justement voir dans la suite du texte comment cela se manifeste lorsque des chrétiens sont remplis de l'Esprit. Une remarque au préalable, avant d'aller plus loin. Jusque-là, mon propos était suffisamment général pour souligner qu'être rempli de l'Esprit est la condition dans laquelle nous devons être pour envisager tous les aspects de notre vie. Il n'y a pas de domaine, pas un domaine dans notre vie où nous pourrions nous passer du Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit à vivre avec sagesse, à vivre dans la lumière, à vivre en aimant Dieu et en aimant les autres. Et cela concerne tous les domaines de notre vie. Je peux en énumérer quelques-uns. La manière dont nous utilisons notre temps, la manière dont nous gérons notre argent, notre sexualité, le choix de nos vacances, le choix de ce que nous regardons sur Netflix ou sur YouTube, le choix de ce que nous écoutons sur Spotify, la manière de nous alimenter, la manière d'alterner travail et repos, la manière de gérer nos relations, la manière de gérer, de régler un conflit, la manière de nous comporter en tant que citoyens français, la manière de déclarer les revenus, c'est en ce moment. Il n'y a pas un domaine où nous pourrions nous passer du Saint-Esprit pour nous conduire avec sagesse. Dans tout ce que je viens d'énumérer, je pense qu'on reconnaît qu'on a à chaque fois besoin de sagesse. C'est pourquoi Paul a exhorté les Éphésiens, et je relis ce verset 15, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. » Et donc cela englobe tous les domaines, la façon dont vous vous conduisez. « Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. » Maintenant que j'ai dit cela, regardons les domaines que Paul évoque plus particulièrement. Quand une personne est remplie de l'Esprit, que se passe-t-il? Eh bien, regardez avec moi le verset 19. Je lis juste un peu avant. « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Voilà ce qui se passe quand une personne est remplie de l'Esprit. Une personne remplie de l'Esprit va se tourner vers ses frères et sœurs. Elle va rechercher le bien et l'édification de ses frères et sœurs. Elle va s'intéresser au fait que ses frères et sœurs puissent être encouragés. Et de quelle manière? En utilisant des chants. Paul dit des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Et pourquoi des chants peuvent-ils nous encourager? Pourquoi lorsque vous écoutez des chants, ça vous encourage? Pourquoi lorsque nous chantons le dimanche ensemble, des chants peuvent nous encourager? Parce qu'il s'appuie sur la parole de Dieu. C'est le cas quand les chants sont conformes à ce que nous trouvons dans les Écritures. Là, ça va nous encourager. Là, ça va nous booster. C'est la parole de Dieu qui nous édifie. C'est la vérité de l'Évangile qui nous fait grandir. Et lorsqu'elle est chantée, ça nous fait du bien, oui. Ça nous encourage, c'est vrai. Lorsque nous chantons que Christ a tout payé pour nous, que nous sommes pardonnés, cela nous encourage. Cela ôte notre culpabilité. Cela nous fait apprécier la grâce de Dieu. Dans la lettre aux Colossiens, Paul dit quelque chose d'assez similaire. Et souvent, on a dit que la lettre aux Éphésiens et la lettre aux Colossiens a été écrite sans doute à peu près en même temps. Colossiens 3, verset 16, « Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. » Que la parole de Dieu soit chantée afin qu'elle reste dans notre cœur. Et cela était d'autant plus nécessaire que les chrétiens de l'époque n'avaient pas encore tout le Nouveau Testament. Donc les chants pouvaient les aider à retenir les vérités qui viennent de l'Évangile. Oui, que l'Évangile soit chanté afin que le message de la grâce de Dieu nous soit rappelé et puisse rester dans notre cœur. Vous vous en êtes peut-être aperçu, mais une partie de notre répertoire, de nos chants chrétiens, ne s'adresse pas directement à Dieu. Est-ce que vous avez déjà remarqué cela? Mais une partie des chants que nous chantons s'adresse aux uns et aux autres. Je vous donne un exemple. J'espère que vous connaissez tous ce chant. « Compte les bienfaits de Dieu ». Oui, ça vous dit quelque chose? Je vous rappelle les paroles. « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » Nous ne nous adressons pas à Dieu lorsque nous disons ça, mais nous nous adressons à notre frère, à notre sœur qui est à côté de nous. Nous devons prendre conscience de cela lorsque nous chantons ensemble, qu'il y a des chants qui ne s'adressent pas directement à Dieu. Bien sûr, c'est en l'honneur de Dieu, mais nous nous adressons les uns aux autres. Et les compositeurs ont bien fait de composer des chants qui aillent dans ce sens-là. Dans ce chant que je viens de mentionner, nous nous rappelons les uns aux autres que dans les circonstances difficiles, Dieu est bon. Il nous suffit de compter ses bienfaits pour nous en rendre compte. Et comment nous savons que cela est vrai? Comment cela nous encourage? Comment savons-nous que Dieu est bon, même dans les jours difficiles? Eh bien, parce que c'est dans la parole. Parce que le chant s'appuie sur ce qui est écrit dans la parole. Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 23. Déjà, le livre s'appelle Lamentations. Mais voici ce que Jérémie écrit. « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Et le verset 25, que je peux aussi ajouter, Lamentations 3, verset 25. « L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. » Comment je sais que Dieu est bon, même dans les jours difficiles? Mais parce que la parole me le dit. Parce que Dieu me le dit dans sa parole. Parce que quand je lis ce texte de Lamentations, je sais que c'est vrai. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc demain matin, je sais que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Et après-demain aussi. Combien même ma journée pourrait être mauvaise. Je sais que cela est vrai pour moi qui suis uni à Christ. Dieu a de la bonté pour celles et ceux qui comptent sur lui. Il a de la bonté pour celles et ceux qui le recherchent, notamment au milieu des épreuves. Quand nous sommes remplis de l'Esprit, c'est ce que nous faisons. Nous désirons, nous voulons encourager nos frères et sœurs en Christ par des chants qui contiennent la vérité de l'Évangile, qui contiennent la parole de Christ. Je vous mentionne un autre chant que nous chantons de temps en temps. Qui s'est laissé clouer sur la croix, de nos péchés portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement, Jésus élevé pour tous les temps. Et le refrain, notre Dieu règne dans les cieux, prosterné, adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosternons, prosterné, adorons-le. Là aussi, le chant s'adresse aux uns et aux autres. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire dans ce chant? Nous nous encourageons mutuellement à adorer notre Dieu. Adorons. C'est à la première personne du pluriel, à l'impératif. Adorons. Nous nous encourageons mutuellement à adorer notre Dieu, notre roi, notre Dieu qui est mort pour nos péchés, Jésus-Christ. Et j'aime tellement ce chant où nous reconnaissons ensemble que le règne n'est qu'à notre Dieu. Il ne peut en être autrement. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit, lorsque le peuple de Dieu est rempli de l'Esprit, il se met à chanter les louanges de Dieu. Il ne peut en être autrement tellement notre Seigneur en est digne. Et quand Paul parle ici du Seigneur, il parle de Jésus-Christ. L'Esprit nous fait toujours regarder à Jésus. L'Esprit nous fait toujours orienter notre regard sur Jésus, non pas sur lui-même, le Saint-Esprit, mais sur Jésus. Et lorsqu'on regarde à Jésus, lorsque on ne peut qu'admettre qu'il est le Seigneur et véritablement le Seigneur, notre cœur n'a qu'une seule envie, l'adorer et célébrer ses louanges. L'Église est un peuple qui chante, je pense que vous l'avez remarqué. Mais ce n'est pas une tradition humaine. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu louait Dieu, chantait des louanges de Dieu. Et dans la continuité, eh bien, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons la même chose. C'est un peuple qui se met à chanter Dieu. Il ne peut en être autrement, tellement Dieu en est digne. Que la meilleure expression qu'on puisse manifester pour dire qu'il est digne, c'est de chanter. Et la louange de Dieu n'aura pas de fin. Le peuple de Dieu, les croyants de tous les temps, chanteront encore et encore les louanges de Dieu éternellement. Cela fait partie de sa vocation. Chanter fait partie de sa vocation en tant que peuple du Seigneur. Et j'aimerais lire un texte à ce sujet, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Pierre rappelle, « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Chanter fait partie de la vocation du peuple de Dieu. Chanter fait partie de la vocation de l'Église. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas un dimanche où nous ne chantons pas. Et nous chantons de tout notre cœur, c'est-à-dire en comprenant ce que nous chantons, en comprenant pourquoi nous le chantons. Oui, lorsque nous sommes saisis, lorsque nous comprenons combien notre Dieu qui a planifié notre salut est merveilleux, lorsque nous comprenons à quel point Jésus nous a aimés au point qu'il s'est offert lui-même en sacrifice pour nos péchés, nous ne pouvons que chanter. Nous ne pouvons que célébrer les louanges du Seigneur. Et quand nous sommes remplis de l'Esprit, c'est ce que nous faisons. Et tout à l'heure, nous le ferons encore. Je poursuis tout de suite après le chant, vient la reconnaissance, et c'est très proche. Verset 20, remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une personne qui est remplie de l'Esprit, qui se laisse diriger par le Saint-Esprit, va exprimer sa reconnaissance à son Père céleste. Et si elle peut le faire, c'est à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus, en lien avec ce qu'il a fait pour nous. En disant à notre Père, Jésus a fait cela pour moi, et c'est pour cela que je peux me tenir devant toi. Si Jésus n'était pas mort sur la croix pour nos péchés, s'il n'était pas ressuscité, nous n'aurions pas cet accès à Dieu et nous ne pourrions pas plaire à Dieu. Et nous pouvons déjà remercier Dieu le Père pour cela, de pouvoir avoir accès à lui grâce à Jésus-Christ. Mais remarquez encore dans ce verset 20 les mots qui entourent le verbe. Remercier constamment Dieu le Père pour tout. Donc j'aimerais mettre en évidence ces deux termes, constamment et pour tout. Mais est-ce réaliste? Je veux dire, dans un monde comme le nôtre où la vie peut être parfois si dure, est-ce réaliste d'être reconnaissant constamment et pour tout? Est-ce réaliste d'être reconnaissant de manière constante, en toutes circonstances? Et pour tout ne signifie pas pour le mal qu'on m'a fait. Pour tout ne signifie pas pour les atrocités que je vois aux infos chaque jour. Donc, quand ici il est question d'être reconnaissant pour tout, ça n'inclut pas absolument tout, et en particulier le mal. Évidemment que nous n'allons pas remercier Dieu pour le mal qui se fait ici-bas. Et j'espère que personne d'entre nous n'a l'idée de le faire. Mais nous le remercions pour tout ses bienfaits, y compris au milieu de l'épreuve. J'ai évoqué tout à l'heure la bonté de Dieu. Même lorsque nous souffrons dans notre corps ou lorsque nous souffrons psychologiquement, Dieu ne cesse d'être bon. Si nous sommes remplis de l'Esprit, nous en prenons conscience et nous remercions celui qui se tient constamment à nos côtés. Il se tient constamment à nos côtés, y compris dans les moments les plus difficiles. Et j'aimerais pouvoir en témoigner. Un jour, j'allais très mal, durant plusieurs semaines. Émotionnellement, j'allais très mal. J'étais triste à cause d'une situation. Et durant ce laps de temps, malgré ma souffrance émotionnelle, je ne voulais pas sombrer davantage. Et j'ai donc fait une liste de toutes les manifestations de bonté que j'avais reçues de la part de Dieu dans cette période-là. Tout ce qui me faisait du bien, parce que même lorsqu'on traverse des jours difficiles, eh bien, tout ne va pas absolument mal. Il y a parfois des rayons de soleil, un mot d'encouragement, ce que j'ai reçu, une discussion avec un ami, même plusieurs discussions, un déjeuner qui m'a fait changer les idées. Oui, j'ai noté tout cela. Et de ces manifestations de bonté, eh bien, j'en ai recensé 20 en l'espace d'un mois, alors que j'allais mal, alors que je me sentais pas bien, vraiment, alors que j'étais triste. Et pour beaucoup de ces manifestations, cela provenait de mes frères et sœurs, qui ne savaient pas forcément ma situation, mais que Dieu a utilisé pour me faire du bien. même quand nous allons mal, lorsque nous sommes au fond du trou, comme on dit, Dieu continue d'être bon avec nous. Nous sommes en Christ. C'est ça que nous devons nous rappeler dans ces moments-là. Nous avons déjà sa faveur. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu n'abandonne jamais celles et ceux qui ont mis toute leur confiance en Jésus-Christ. Cela ne fait aucun doute. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Comme dit un autre chant, Jésus même, et ça je le sais, la Bible me le dit. Donc oui, je crois qu'être reconnaissant en toutes circonstances est réaliste et possible. Le Saint-Esprit nous en rend capables. Et je termine sur un dernier domaine que Paul évoque. Je serai un peu plus bref. Le domaine de la soumission. Verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Donc si on reprend, on fait le lien. Soyez remplis de l'Esprit. Il est question de chanter, il est question d'être reconnaissant. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. L'Esprit œuvre en nous de telle sorte que nous soyons capables de vivre des relations harmonieuses avec les autres. Et pour ce verset, c'est vrai que certains commentateurs pensent à une soumission mutuelle dans l'Église. Quand les chrétiens, par exemple, se mettent au service les uns des autres. Peut-être, et ce n'est pas une idée fausse. D'autres relient ce verset 21 à la suite du texte, parce qu'il est aussi question dans la suite de soumission, notamment dans trois relations domestiques. Et dans ce cas-là, la soumission n'est pas d'ordre mutuel, ce n'est pas les uns envers les autres, mais cela concerne la soumission de certains à l'égard de d'autres. Et trois relations où l'on se soumet à un autre. C'est là qu'il est question de la femme qui se soumet à son mari, de l'enfant qui se soumet à ses parents et de l'esclave qui se soumet à son maître. Mon propos ne sera pas de commenter de manière détaillée cette partie du texte, mais j'évoquerai plutôt une réflexion sur la soumission. Si dans la Bible nous trouvons cette exhortation à nous soumettre, que ce soit nous soumettre aux autorités par exemple, nous soumettre aux responsables de l'Église, lorsqu'il est question de soumission dans une relation donnée, eh bien cela signifie que cela est bon. Cela signifie que c'est juste aux yeux de Dieu, qu'il en soit ainsi. C'est dans le cadre de la crainte de Christ, alors c'est vrai qu'ici dans la traduction second 21 on dit la crainte de Dieu, mais une variante dirait plutôt la crainte de Christ, mais ça revient au même. C'est dans le cadre de la crainte de Christ, dans le respect qu'on a pour Christ, dans l'égard qu'on a à l'égard de Christ, que cette soumission est demandée. Je vous donne justement les trois exemples que nous avons dans la suite du texte. Aux femmes, il est dit « Soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur ». Et c'est important ce « comme au Seigneur ». Ensuite, aux enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Et puis aux esclaves, à l'époque, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Si nous nous soumettons, c'est par égard pour Christ. Et dans une société où l'autorité est si souvent contestée, l'idée de la soumission peut paraître étrange. Et peut-être que cela nous influence aussi. Nous disons, c'est quand même, aujourd'hui on parle encore de soumission. Mais parce que dans notre société, l'autorité est souvent contestée. Pourtant, le croyant qui veut plaire à son Seigneur acceptera l'ordre établi. Acceptera que, eh bien, il y en a qui ont autorité sur lui. Et fera preuve de soumission et de respect à qui il le doit. Et seul le Saint-Esprit peut nous conduire à penser de cette façon-là. Avouons que lorsque nous rencontrons dans la parole cet impératif « soumettez-vous », il y a une part rebelle au fond de nous qui a envie de dire non. Soyons remplis de l'Esprit. Recherchons ce qui plaît à Dieu. Et nous verrons clairement que la soumission, c'est l'attitude juste qu'il convient d'avoir. Le chant, la reconnaissance et la soumission, trois domaines où l'Esprit Saint exerce son influence dans la vie du croyant. Et vous aurez compris que ce ne sont pas les seuls domaines de la vie. Je reviens à l'exemple de départ. Une IA ne peut définitivement pas louer le Seigneur. Quand bien même elle pourrait générer de meilleures prières que nous. Mais c'est vrai. C'est à celles et ceux que Dieu a sauvés par Jésus-Christ que le Saint-Esprit a été donné. C'est rempli de l'Esprit que les chrétiens débordent d'amour pour Dieu et se mettent à le louer. Ce n'est pas une IA qui va faire ça. C'est aussi rempli de l'Esprit que les chrétiens débordent d'amour pour leurs frères et sœurs. Et ce matin, le Seigneur nous commande dans sa parole, « Soyez remplis de l'Esprit. » Soyez remplis de l'Esprit. Il dit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Oui, d'un côté, il y a soyez remplis de l'Esprit et de l'autre, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui vous dit, va par là, et nous on va là, n'attristez pas. Doit-on encore rappeler que dans la Trinité, le Saint-Esprit est une personne et que nous pouvons l'attrister. En choisissant d'aller à l'opposé de ce qu'il nous dit de faire. Le Seigneur nous commande dans sa parole ce matin, soyez remplis de l'Esprit. Suivez le Saint-Esprit dans la direction où il vous conduit. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous passer de lui au risque de l'attrister. Vous ne pouvez pas vous passer de son œuvre en vous, de sa direction dans votre vie de tous les jours. C'est lui qui vous rend capable de comprendre la volonté de Dieu et d'y adhérer. C'est lui qui vous rend capable d'obéir à Dieu en faisant ce qu'il commande dans sa parole. C'est lui qui agit dans votre vouloir et dans votre faire. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la décision que nous devons prendre chaque jour. Et si nous prenons cette décision aujourd'hui, eh bien demain, il faudra la reprendre de nouveau. Et après-demain, encore. Nous ne sommes pas remplis une fois pour toutes. Il faut toujours revenir au Seigneur. Parce qu'il n'y a pas un seul jour où nous ne voulons pas dépendre de lui. Il n'y a pas un seul jour où nous ne voulons pas dépendre du Saint-Esprit. Alors oui, ça doit être la prière d'aujourd'hui, la prière de demain et jusqu'à mon dernier souffle. Et peut-être que si on devait faire juste une seule prière dans la journée, ce serait celle-là. S'il n'y avait qu'une seule prière, une seule demande à faire à Dieu pour la journée, ce serait celle-là. Que je puisse être rempli de ton Esprit. Et que je puisse faire ce que tu veux. Ce n'est même pas lui dire, fais en sorte que cette journée se passe bien, fais en sorte que je puisse réussir ce que je suis en train d'entreprendre. C'est, fais que je puisse suivre ton Esprit Saint. Là où il me conduit. Là où il est en train de me transformer. Là où il me demande d'obéir. Il n'existe pas d'autre manière de vivre la vie chrétienne. Si vous connaissez une vie alternative, dites-moi, mais je crois qu'il n'existe pas d'autre manière de vivre la vie chrétienne que de dépendre du Saint-Esprit. Et la question est donc, dans ma vie, et chacun peut se la poser, dans ma vie, ai-je tendance à faire ce que je veux et à prendre les rênes, ou est-ce le Saint-Esprit qui me dirige ? Que nous puissions prendre un temps pour réfléchir à cette question et pour prier. Dans ma vie, ai-je tendance à faire ce que je veux et à prendre les rênes de ma propre vie? Ou est-ce le Saint-Esprit qui me dirige? Et si ce matin le Seigneur me commande, soyez remplis de l'Esprit, comment est-ce que je lui réponds? Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole et te remercier tout particulièrement pour le don de ton esprit. Parce que tu savais que nous en avions besoin, parce que tu savais que c'était nécessaire pour nous transformer, pour nous sanctifier, pour que nous puissions être de plus en plus semblables à Christ. Et nous voulons te demander pardon, vraiment. Pour toutes ces fois où nous avons attristé le Saint-Esprit qui était en nous. Pour toutes les fois où nous sommes allés dans une autre direction que ce que, ce que le Saint-Esprit nous disait de faire. Oui, pardonne-nous, Seigneur, d'avoir agi comme des insensés et pas comme des enfants de lumière. Mais nous avons entendu ta parole encore ce matin, où tu nous demandes de pouvoir vivre dans cette dépendance à ton esprit. Et nous te prions, notre Dieu, que nous puissions mettre cela en application dès aujourd'hui, dès maintenant. Et c'est vrai, nous te demandons que ton esprit puisse agir encore dans notre vie et nous conduire. Oui, nous voulons nous laisser guider parce que nous sommes incapables par nous-mêmes de mener une vie qui soit juste et qui te plaise. Parce que nous sommes incapables, ne serait-ce que de faire ce qui est bien, sans ton esprit. Alors, dans tous les aspects de notre vie, nous te le demandons, que nous soyons dirigés par ton Esprit Saint. Et c'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.